France Musique. Les grands entretiens, Arnaud Merlin, France Musique.
Je suis Pascal du Sapin, né le 29 mai 1955 à Nancy. Je suis compositeur de musique.
Pascal du Sapin, vous avez 10 ans quand vous découvrez l'orgue et vous avez 10 ans quand vous tombez malade. C'est à peu près en même temps.
Oui, là je tombe malade, ouais. Et puis très malade, ouais. Un jour, en regardant deux camarades jouer au ping-pong, le mouvement stroboscopique des deux balles, enfin, je fais une crise d'épilepsie extrêmement grave, quoi. Voilà. Donc je tombe dans les pommes, j'en ai aucun souvenir. Hein. D'ailleurs c'est marrant, j'ai le syndrome en fait de l'épilepsie, vous savez, en fait ce sont les bosses et les blessures que vous faites en tombant. Et toujours après une crise, vous avez une bosse quelque part. C'est une maladie qui vous fait tomber. Hein. Alors vous avez toujours mal quelque part. Vous avez fait mal à la main, vous avez le coude explosé, la tête qui saigne. Ben moi, c'est ce que j'ai vécu souvent. Et cette maladie, évidemment, arrive comme ça. Et elle décide de tout. Hein. Alors, j'en parle avec aussi beaucoup de... Je ne veux pas dire de tendresse, mais presque. Parce que je pense qu'à ce moment-là, cette maladie va me protéger, en fait, de beaucoup de choses. Quoi. Et elle va m'isoler totalement. Il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque, dans les années 60, là on est en 65-66, l'épilepsie c'est la planète Mars, quoi. C'est-à-dire personne ne sait vraiment ce que c'est, quoi. Enfin, c'est une maladie déjà qui a une histoire extraordinaire depuis l'Antiquité, parce que c'est le mal noir, la mélancolie, c'est aussi la maladie des dieux, la maladie du génie, enfin, on sait tout ça. Aristote a écrit un livre là-dessus. Elle frappe aussi certains personnages très particuliers, de Jules César à Flaubert, à Moussorgsky, enfin. Vous voyez, quand j'en parle, j'ai la voix qui se... Quelque chose s'exprime toujours avec cette maladie. C'est une maladie extraordinairement expressive dans son mystère. Mais dans les années 60, on soigne ça comme on soigne un cheval. Encore que c'est pas sympa pour le cheval. Quoi. Quand je raconte, j'ai encore la liste des médicaments qu'on me donne, Epanal, Valium 5, Dépakine, le fameux Dépakine, Orthénal, tous ces médicaments, j'en prends 14 par jour pendant 9 ans, quoi. Et donc, j'étais complètement abruti, quoi, avec ces trucs-là. Parce qu'en fait, en plus, c'est une maladie honteuse, il faut pas le dire, il faut pas en parler. Ma mère était toujours extrêmement inquiète de savoir si les autres savaient. Et finalement, au bout d'un moment, il y a un protocole très particulier se met autour. C'est-à-dire, c'est que... faut faire attention au soleil, à la lumière. Encore aujourd'hui, j'ai peur de la lumière. J'ai toujours des lunettes de soleil, même quand il pleut, quelquefois. J'ai très peur des oscillations électriques, je veux dire, quand les images vont trop vite, je peux regarder aucun stroboscope, même un simple clip, si l'image va trop vite, je peux pas, je suis obligé d'arrêter. Enfin, tout ça, c'est ma mémoire. Ça veut pas dire que je suis en danger aujourd'hui, mais ma mémoire refuse de voir ces mouvements trop rapides. Et donc, je passe des années comme ça avec les crises sont assez fréquentes jusqu'à l'âge de 17 ans, en fait. Et j'arrête moi-même mon traitement quand j'ai 19 ans.
Par volonté ?
Oui, ah ouais, vraiment, contre l'autorité paternelle.
Qui était médecin ?
Qui était médecin.
Et biologiste ensuite.
Biologiste, oui. Alors c'est un bouleversement de vie assez extraordinaire parce que en même temps riche, très riche, parce que mon père à ce moment-là change de vie, moi je suis malade comme un chien, enfin on sait pas quoi faire, je pense qu'à la musique. Mon père fait un truc incroyable, lui-même qui était un enfant qui venait vraiment aussi du quart monde, quoi. Comme il disait, mon grand-père paternel que je n'ai pas connu, il disait, tu sais, ton grand-père était cantonnier, mais il avait même pas le droit de choisir les pierres qu'il cassait pour les mettre dans les travées des rails. Il avait juste les droits de les casser. Et il lui-même était très jeune, il a perdu ses deux parents, comme ça, à quelques mois d'intervalle, 2-3 mois d'intervalle, à 17-18 ans, il se retrouve tout seul, dans un bled près d'Épinal, quoi, dans les Vosges, quoi. Et il est devenu instituteur, et puis il passe son bachot par correspondance, ce que je ferai moi-même des années après, avec le Centre National de Téléenseignement, comme on l'appelait à l'époque, qui avait été créé après la guerre, justement pour rééduquer, si passer l'expression, tous ces jeunes gens qui étaient soit partis à la guerre, soit isolés de l'enseignement pour des questions qui tenaient au conflit. Et puis il se dit, médecine, je vais faire médecine. C'est un type d'un courage incroyable, hein. Et finalement, cet acte-là, quand il a 38 ans, donc moi j'ai une dizaine d'années, il abandonne tout. Mais il abandonne tout. Et il était le médecin du coin quand même. C'était un notable, surtout à cette époque-là. On vivait pas si mal, quoi. On vivait bien. On était. Et il abandonne tout. Mais alors tout, hein. Femme, enfant, tout, hein. Et il part à Paris et il s'inscrit comme étudiant. Donc il devient en ce moment-là, avant 68, il est porté par le courant de cette époque, quoi, qui remet tout en question. Et il se retrouve en 68, sur le boulevard Saint-Michel, à gueuler, tout ça.
Ouais. Étudiant en biologie.
Étudiant en biologie, ouais. Donc, moi, quand j'étais gosse, comme on me disait toujours, qu'est-ce qui fait ton père? Je disais, bah, médecin. Donc, j'avais l'air d'un fils de bourgeois. En fait, j'étais fils d'un étudiant. Parce que quand on a 10, 12 ans, ça, c'est incompréhensible qu'un père remette tout en question comme ça. Et donc, à ce moment-là, il a 4 enfants. Il y a 2 enfants, les plus jeunes, qui restent avec ma mère à Metz. Et les 2 plus âgés, mon frère aîné et moi-même, on vit avec notre père. Donc, j'ai quasiment pas vécu avec ma mère, quoi. Et c'était un jugement de divorce, enfin, le divorce est intervenu très très longtemps après, mais la séparation avait, dans ces années-là, ils avaient coupé la famille en deux, quoi. Et moi, je me retrouve dans la région parisienne avec mon frère aîné, mon père qui va à la fac, quoi. Je me retrouve encore dans un internat. Alors pour le coup, là, j'étais dans un internat très particulier, disons plus dédié au cas difficile. Donc j'étais avec que des gens à moitié fous. Et cette école m'a beaucoup apporté, m'a beaucoup sauvé, m'a sauvé vraiment. Ouais. Parce que évidemment, j'étais nul en tout. Enfin, j'étais. Moi, j'étais très mauvais toute ma adolescence. J'étais nul en musique, j'étais nul à l'école. Enfin, j'étais bon en français seulement.
Voilà. Vous êtes précepteur, professeur de piano, postier.
Oui, alors ça, c'est un peu plus tard, à l'adolescence. Ouais. J'ai fait plein de petits métiers comme ça. Ouais, ouais. Travaillé 7 mois dans les postes, par exemple. Dans les trains, la nuit. J'ai même été diamantaire. J'ai travaillé dans un... pas très loin d'ici, rue Lafayette. J'étais un diamantaire quand j'ai 18 ans, un an. J'étais classeur en diamant. J'ai même un diplôme. J'ai un diplôme de gémologie. J'ai étudié la gémologie parce que j'aimais beaucoup les diamants.
Pascal du Sapin, 18 ans, c'est le choc Arcana de Varèse. J'ai vu la partition ici.
Mais elle est toujours à côté de moi.
Vous l'entendez comment et où?
Alors, je l'entends à l'université de Vincennes, où je me retrouve, parce que j'étais toujours obsédé par cette musique, enfin, et en même temps, extrêmement. J'étais très seul, en fait. Et très triste aussi, pas de la solitude, mais du fait que je voyais bien que je commençais à comprendre que je serais jamais le grand pianiste ou organiste que je voulais. Enfin, je savais bien quoi. Je voulais même faire du jazz ou des choses comme ça, mais je voyais bien que tout ça, mon amour du fruit des formes les plus exacerbées de l'époque. Enfin, c'est vrai que je découvre Coltrane, et puis pas le Coltrane de Love Supreme, hein, enfin le Coltrane de la fin, enfin avec Rachid Ali, les expériences très limites, Eric Dolphy, enfin Sun Ra, le Jazz Composer Orchestra, des choses comme ça, Ornette Coleman, enfin tout ça, j'adore toutes ces expressions je sais pas comment on peut dire, enfin surimprimé d'expression limite, quoi. Enfin, ce qui m'intéressait, c'était Coltrane, Thelonious Monk, c'était des gens comme ça. C'est ça qui m'intéressait. Je voyais bien que je pouvais pas, quoi. Puis j'aimais beaucoup Beethoven aussi. Puis j'étais pas fichu de jouer les Diabelli en entier, quoi. Enfin bon, donc c'est foutu, quoi. Et j'arrive à la fac, donc Vincennes, donc on est dans les années 74, quoi. Je me retrouve là, et là, ça, c'est la véritable révolution, quoi. Pas uniquement sur la musique, hein, mais sur à peu près tout, quoi. Parce que finalement, en quelques mois, je rencontre Varèse et Gilles Deleuze, quoi. Mais Varèse, c'était dans un cours d'histoire, qui était assez académique, mais qui me donnait beaucoup. Enfin, je dis académique parce que c'est peut-être le seul prof normal qu'il y avait à Vincennes. Et un jour, il nous fait écouter Arcana, comme ça. Voilà. Aujourd'hui, on va écouter Arcana.
Et qui était le professeur, vous vous souvenez?
Francis Bayer. Ah. Et Arcana, 20 minutes, révolution copernicienne. Je sors de cette écoute, j'étais totalement transformé. Une fois de plus, comme avec l'orgue, au fond. Quelque chose était de l'ordre du moléculaire, quoi, de l'intérieur total, quoi. Je sors de là, je dis, je veux faire ça. C'est ça que je veux faire. Et le piano, tout ça, tous ces trucs, c'est terminé. Et j'arrête totalement. Le piano, pour moi, c'était juste la possibilité de gagner un peu ma vie en donnant des leçons à des enfants. Voilà. Ce que j'ai fait pendant des années. J'étais pas trop mal. C'était mon niveau, en fait. Mais je me serais bien gardé d'avoir un étudiant qui arrive avec les études transcendantales de Liszt, évidemment. Mais les enfants, ça me plaisait beaucoup. Et je dis, je veux faire ça. Et je commence à écrire le lendemain.
Les grands entretiens de Pascal Dussapin, France Musique.
Et je découvre ce monde qui sourdait un peu comme ça en moi depuis un moment, parce que je ne suis pas non plus totalement aussi inculte que je veux bien le dire. Mais... Et je me pose une question très simple, qui aujourd'hui fait ça? Bon, Varèse est mort, ok. Bon, c'est qui le après Varèse? Et évidemment, je ne tombe que sur Xenakis, quoi. Sauf que Xenakis était vivant.
Et qu'il enseignait à la fac.
Il enseignait à la fac, un truc qui m'allait extrêmement bien, qui était en même temps très simple. Pas du tout conservatoire, tout ça. Pas du tout de musiciens, ou extrêmement peu, certains qui passaient. Enfin, il y en a eu, mais... Et moi, je me colle là-dedans, et je ne le quitte pas pendant 4 ans. Alors, les cours, il faut raison garder, c'était une fois par semaine, 2-3 heures, mais c'était telle densité, en tout cas émotionnelle pour moi, que je n'en ai pas manqué un seul, quoi.
Il parlait de quoi?
Alors, Xenakis... Je serais bien en peine de vous dire de quoi il parlait, parce qu'en fait, je comprenais rien au début. On n'est pas dans l'ordre du professorat avec Xenakis. Pour ça, j'aime toujours à dire aujourd'hui que Xenakis, à la fin de sa vie, disait « Pascal a été mon seul élève ». Et en fait, il se défiait complètement du mot « élève ». Il disait « Je ne suis pas professeur ». Et je pense qu'il avait raison. Pour moi, il n'a jamais été un professeur, il était un maître. Donc ça, c'était presque pour moi, d'un ordre spirituel. Enfin, j'allais écouter Xenakis, alors il parlait beaucoup de transferts de formes, il faisait de transferts de modèles, d'analogies entre les mathématiques et la musique. Il faisait des digressions extraordinaires sur le Timaeus de Platon, ou bien je ne sais quoi, de Sénèque. De temps en temps, je me souviens, il amenait une image. Un jour, il avait amené une image d'un vase grec, comme ça. Et il s'était mis à faire une analyse... une analyse, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, il nous parlait de l'imagerie de ce vase grec, et il était évident que, en écoutant ces mots, c'était toujours de musique dont il parlait, mais plus de musique encore, c'était de création. Et c'était pour moi un enseignement, en fait, vraiment fondamental, parce que il était au-delà même de la musique, comme la musique me faisait quand même toujours très peur, que je ne dominais pas la musique, que j'étais pas, moi, en position de la tutoyer, quoi. Si on parlait d'une chose qui était un peu autour, ça m'arrangeait. Et Xenakis, c'était merveilleux pour ça. Et j'avais un tel complexe d'imposture, de culpabilité sur la musique. Au fond, l'enseignement de Xenakis, qui venait d'une autre rive, qui venait d'une autre histoire, Xenakis, c'était un immigré, quoi. C'est quelqu'un qui venait d'ailleurs, qui portait pas toute cette charge historique culpabilisante... que j'adore, moi, par ailleurs, hein. Moi, j'adore Beethoven, Stravinsky, Sibelius, mais à ce moment-là, c'est très différent. C'est parce que pour moi, le monde de la musique, c'était un monde d'aristo, quoi. C'est pour ça que j'ai détesté aller au Conservatoire de Paris, quoi. Même si j'ai rencontré des gens très sympathiques, mais j'ai détesté ces gens qui avaient le pouvoir, quoi. Qui avaient, vous savez, comme, j'avais l'impression d'être invité dans un rallye, quoi.
Et vous êtes quand même allé voir la classe de Messiaen en, en auditeur.
Voilà, c'est-à-dire, alors pendant les années Xenakis, moi je connaissais André Boukourechliev depuis très longtemps, parce que, tout simplement, depuis ma 15e année, parce que j'avais une petite amie dont les parents étaient très amis avec Boukourechliev. Et Boukourechliev, il avait été très très violent avec moi, parce que il m'avait dit... il a été violent, c'était violent pour moi, mais il avait totalement raison. Il m'avait dit, alors c'est toi le pianiste, tu veux devenir pianiste? Il m'a dit, montre-moi tes mains. Comme ça. Alors je lui avais montré ma main, et il m'avait dit, tu seras jamais pianiste. C'est dégueulasse quand même de dire ça. mais il avait raison. Je dois dire qu'il avait raison. Et après, il a été extrêmement généreux avec moi. Il s'est vraiment occupé de moi. Si quelqu'un s'est vraiment occupé de moi, c'est Boukourechliev. Et alors, il m'avait dit, tu dois aller chez Messiaen, je vais parler à Messiaen. Parce que Boukourechliev, il remplaçait Messiaen au conservatoire. Quand Messiaen, ce qui arrivait assez souvent, devait partir en voyage. Et donc, il me présente à Messiaen. Et Messiaen, comme il adorait Xenakis, ah, vous étudiez Xenakis, d'accord, mais alors, vous passerez le concours plus tard, tout ça. Je fais, oui, mais tout ça. Alors, évidemment, j'avais un respect immense de Messiaen, ça c'est clair, mais... C'est quand même un grand génie, quoi. Mais quelque chose, vous voyez, j'avais l'impression d'être invité chez la marquise, quoi. Et pas savoir comment utiliser les petites fourchettes et les verres. Vous voyez, je savais pas, quoi. Alors, je me souviens que dans la classe, il y avait George Benjamin, avec qui je suis resté très ami toujours. Il était très jeune. Alors, lui, c'était tout à fait le contraire. Il avait 17 ans, il était doué, mais c'était à tomber par terre. Je savais tout faire, je savais jouer du piano, diriger, composer comme, voilà, va comme je te pousse, tout ça. Enfin, je veux dire, il pouvait tout faire. Moi, j'étais un pauvre gosse, moi, à côté, quoi. J'étais un vrai minable.
Concrètement, Pascal Dussapin, quand vous avez 18 ans et que vous êtes élève chez Xenakis, l'artisanat, ça marche comment? Vous êtes devant une feuille de papier à musique, vous apprenez comment? Vous apprenez tout seul, vous apprenez avec votre oreille, vous écrivez d'oreille, si je puis dire.
Oui, alors ça, c'était pas le problème tellement. C'est-à-dire ça, pour moi, l'écriture, c'était vraiment quelque chose de vraiment naturel. C'est un peu comme la natation, quoi. Enfin, je me souviens pas quand j'ai trop appris à nager ou même à écrire. La musique, c'était tout à coup. Mais si vous voulez, l'écriture, c'est une résolution pour moi. C'est-à-dire, quand je me mets à écrire, je dis pas que c'est facile, mais c'est comme, vous savez, c'est comme revenir au pays, quoi. Ou en tout cas, arriver dans un pays où, tout à coup, vous dites, c'est là que je veux vivre. La première chose, en fait, c'est plutôt un retour littéraire. Comme j'étais un garçon très porteur, parce que la littérature était plus facile d'accès pour moi, au fond. J'ai toujours été très jeune, ce qu'on appelle un grand lecteur. Je le suis resté. Je lis énormément. Je passe beaucoup plus de temps à lire qu'à écouter de la musique, par exemple. Mais tout d'un coup, résoudre en quelque sorte la question de la littérature qui était très forte en moi et celle de la musique, par l'écriture de la musique, par cette transduction, j'ai gagné au loto, quoi. Enfin, donc tout d'un coup, je découvre une fluidité possible. Les choses étaient, c'est ça, naturelles. Et puis au fond, j'avais pas tellement le choix. J'avais pas le choix, donc je me jette là-dedans en autodidacte. Et alors aujourd'hui, quand on me présente souvent comme un autodidacte, et moi j'ose penser que... Mais comment peut-on devenir autrement créateur qu'en étant autodidacte ?
Extrait de Timée, œuvre de jeunesse de Pascal Dussapin par l'Orchestre National de France, dirigé par Pierre-Michel Lecomte. Équipe de réalisation, Yves Lehorse, Flora Sternadel, Valérie Lavalard et Marie Groux. On se retrouve demain même heure pour le troisième chapitre de ces grands entretiens avec Pascal Dussapin.
À réécouter sur francemusique.fr.